Immersion.
Un reportage de Radio Présence.
Mais comment faire pour être heureux ?
Tous les jours de l'année, 365 jours par an, à Toulouse, au cœur de la ville, aux 34 rue des Couteliers, dans leur tout nouveau local, les écoutants se relaient. Ils sont près de 25. Tous bénévoles, tous formés à une écoute non directive, et qui chaque jour, de 14h30 à 19h, et dans l'anonymat et la gratuité, accueillent tous ceux et celles qui, traversant des moments difficiles, cherchent quelqu'un à qui parler, en toute tranquillité et sans jugement aucun. La Porte Ouverte, c'est le nom de cette association qui, créée en 1969 à Lyon, a essaimé depuis dans 6 villes différentes, dont celle de Toulouse. À l'origine du concept de l'association, qui est apolitique et aconfessionnelle, l'intuition d'un prêtre allemand, Marcel Daniel, et une réflexion menée en parallèle avec le Secours Populaire. Près de 50 ans après, qu'est devenue cette association ? Aujourd'hui, qui sont ces bénévoles qui, jour après jour, maintiennent cette porte ouverte ? Pourquoi ? Comment sont-ils devenus écoutants ? Leur vie en est-elle changée ? Quelle relation établissent-ils avec ces hommes et ces femmes qui cherchent quelqu'un à qui parler ? Et cela même, qui sont-ils ? Au terme de quelle souffrance, de quelle solitude se décident-ils un jour à pousser la porte de la porte ouverte ?
Bonjour, entrez, entrez. Attendez, on va se mettre dans le petit bureau, là. Vous voulez passer devant ? Allez-y, allez-y, je vous rejoins. Voilà, voilà, voilà. Asseyez-vous. Moi, je m'assieds en face de vous. Eh bien, voilà. Eh bien, écoutez, vous allez me dire pourquoi vous êtes venu pousser cette porte-là. Quand vous voudrez, pas d'urgence. On a le temps, on a tout le temps devant nous. Donc... Je suis tout à vous.
Jean-François, vous m'accueillez ici, nous sommes à Toulouse, rue des Couteliers. La Porte Ouverte à Toulouse a toujours été dans ces lieux ?
Non. Au départ, donc dans les années 80, on était implanté aux allées Jean Jaurès, puis on était place du Capitole ensuite. Et nous sommes dans ces locaux depuis une dizaine d'années.
Marie-Odile.
Bon, ce sont des locaux que nous louons. C'est un ancien magasin d'ailleurs. Que nous louons à un propriétaire. Et là, on a aménagé 2 petits bureaux d'accueil différents. Et comme dit Jean-François, un petit sas pour si une personne doit attendre. Mais l'avantage de nos locaux, je pense que c'est un gros avantage pour les personnes qui ont besoin de venir à la porte ouverte, c'est que ces locaux sont en centre-ville, dans une zone facile d'accès du fait qu'il y a le métro, il y a des bus très près. Elle est de plein pied, les personnes qui ont du mal à marcher peuvent rentrer directement. Elle est dans une petite rue qui n'est pas trop passagère et c'est plus facile que sur une grosse avenue où il faut pousser une porte devant beaucoup de personnes. Tandis que là, c'est une petite rue, la rue des Couteliers, mais elle est très vite rue de Metz, donc très vite près des grandes artères, donc je pense très facile d'accès. Bon, c'est un choix que nous avons fait, mais ça, c'est difficile d'avoir, de par ailleurs, une situation pour nous qui semble aussi facile pour les personnes.
Alors, je suis venue la semaine dernière, c'était un soir vers 18h, 18h30, il y avait foule ici, à la porte ouverte rue des Couteliers. C'était l'inauguration alors, de nouveaux locaux, ou bien de vos locaux qui avaient été rafraîchis. Alors Marie-Odile, est-ce que vous pouvez nous faire visiter d'abord un petit peu ces locaux, où est-ce que nous sommes ? Et puis après, vous allez nous expliquer un petit peu tout ce que je vois ici, la décoration sur les murs, les fresques, on peut parler presque de fresques murales.
Voilà le petit carillon du bonjour. Et nous avons un premier bureau. Un premier bureau. Voilà. Ça a été notre premier moment de départ, le premier moment de vie de la nouvelle transformation. Parce que bon, nous avions des locaux qui avaient été refaits il y a 5 à 6 ans et qui étaient devenus vétustes dans une couleur qui maintenant nous étouffait un peu, un jaune un petit peu stressant. Et on a dit, il nous faut de la lumière, il nous faut de l'espace. Donc voilà, nous avons opté pour un fond blanc. Donc nous sommes partis sur du blanc. Mais au milieu de ce blanc, il arrive une vie qui est un arbre. C'est un arbre qui a été peint et qui a été pensé, qui a été créé par une équipe de jeunes étudiants de l'école d'architecture de Montauban, qui est reliée à l'université du Mirail, et qui nous ont fait des propositions de rénovation. Et on a opté pour une de ces propositions, et cette première proposition, c'était un arbre avec des branches qui partent et qui s'étalent sur tout le bâtiment dans les différentes pièces de notre association. Et de ces branches partent des feuilles. Des feuilles, et des feuilles, il y en a de toutes les couleurs. Il y en a des noires, il y en a des vertes, il y en a des rouges. Et je pense que ces feuilles ont représenté pour ces jeunes qui nous ont fait cette proposition des choses différentes. Ça peut être le noir de la tristesse, le rouge du vraiment être mal, le vert de l'espérance. Et on a eu l'impression qu'ils nous donnaient des messages en nous proposant cet arbre. Et cet arbre qui porte toutes ses feuilles, il porte ses feuilles de toutes les couleurs. Et c'est un peu nous tous qui sommes sur les feuilles, qui nous dispersons dans cette porte ouverte. Voilà. Et alors ce premier arbre qui est dans la première pièce d'accueil se continue au niveau de l'entrée, au niveau du second bureau également, les branches se continuent, les feuilles se continuent, et on a donné un petit peu une dominante de vert et d'espérance. Et je vais vous dire, un jour où on avait à peu près fini les travaux, parce qu'on a fait quand même ça petit à petit, une personne est venue pour nous écouter, et il m'a dit, « Vous avez agrandi les murs ». Je lui ai dit, « Non, 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 je vous assure, les murs, on n'y a pas touché, mais on a peint. » Oui. Et vous savez, quand je vois les feuilles de couleur, ça me redonne de la vie. Hein? Pourquoi vous avez fait des couleurs? Ben, je lui dis, c'est parce qu'il y a de la couleur dans la vie. Mais oui, mais c'est vrai, parce qu'avant, c'était tout jaune. C'était tout jaune. Et il m'a dit plusieurs fois, c'était tout jaune. Et je pense que c'est ça, d'essayer de mettre de la vie dans ce local.
Le soir de l'inauguration des nouveaux locaux, de nombreux bénévoles se retrouvaient rue des Couteliers. L'accueil est spontané, vrai, et l'ambiance est chaleureuse. Les détours et cheminements qui ont conduit chaque écoutant à la porte ouverte sont autant d'histoires uniques et singulières. Aucun, cependant, n'est arrivé là par hasard. La première personne rencontrée ce soir-là, c'est Marie-Claude.
Ça fait 4 ans que j'y suis, et je suis venue parce que j'avais du temps, je suis à la retraite, et je me suis dit que ça permettait de découvrir déjà une équipe, et puis de trouver au sein de cette équipe aussi des gens qu'on reçoit, qui nous apportent beaucoup, à qui on donne, mais à qui on reçoit aussi beaucoup, et qui sont très impressionnants par ce qu'ils sont eux-mêmes. Et je avoue que ça, c'est une grande richesse en tous les cas. Voilà.
Mais en fait, ici, ce n'est pas anodin, ce n'est pas un bénévolat, je dirais, pour vous faire plaisir ou uniquement pour vous faire plaisir.
Non, on ne se fait pas toujours plaisir. Et il y a quelques fois, on sort de là un petit peu, pas cassé, mais à se poser des questions parce que ça nous remet...
Interrogé, bousculé.
Bien sûr, parce que ça nous remet en cause. Ça nous remet en cause même dans notre vie au quotidien, je dirais, avec nos proches, avec notre famille. On a souvent tendance à donner des propositions, à dire il faudrait que tu fasses comme ça. Et là, on est simplement dans l'écoute pure, essayer de bien enregistrer ce qu'on nous a dit, ce qui est une grande tension finalement. Et à partir de là, effectivement, se poser des questions. Qu'est-ce que ces gens vont pouvoir faire? Qu'est-ce qu'on leur laisse comme espace? Et qu'est-ce qu'ils vont devenir à partir de notre écoute? Notre écoute qui a été à un moment donné, comme ils disent, « Ah, ça m'a fait du bien de venir vous parler, quoi. » Donc, en même temps, on a l'impression de rien faire, de rien apporter, et en même temps, il y a des choses qui se passent. Et s'ils reviennent, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe, en tous les cas.
Rennes, on écoute, et puis voilà, on ne dirige pas, on écoute seulement. Et on n'écoute pas sa voix, enfin on essaie de savoir se taire.
Et vous êtes là également pour donner des conseils, pour orienter vers, je sais pas, une structure médicale ou sociale?
Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est tout à fait indépendant.
C'est
c'est bien propre à la porte ouverte. La parole, voilà.
Françoise, ça fait un an et demi que je suis là.
Comment vous êtes arrivée ici ?
Disons que j'étais enseignante, j'ai arrêté de travailler il y a un peu plus de 2 ans, donc j'avais envie de faire quelque chose, de rejoindre une association. J'ai vu un petit encart sur la Gazette de l'Utopia. Bon, je travaille dans l'éducation spécialisée, bon, c'était un domaine, c'est quelque chose qui m'a attirée tout de suite.
Par essence, on va dire qu'un enseignant, d'autant plus auprès d'enfants handicapés, c'est écouter. Est-ce que ça s'apprend ? Est-ce que l'écoute, ça s'apprend ?
Je sais, non, je pense qu'il y a quelque chose qui est un petit peu inné. Et puis après, oui, à la porte ouverte, on a une formation qui est intéressante, où on nous enseigne quelques clés. Je pense que c'est quelque chose qui attire ou qui attire pas. J'ai pensé tout de suite que c'est quelque chose que je pourrais faire. Et puis c'est vrai que ça correspond bien à ce que j'attendais.
Et vous donnez combien de temps ici par semaine ?
Le plus ou moins le contrat, c'est de venir 4h30 par semaine, en une fois, en deux fois. Et puis des fois, quand il y a des plannings difficiles à compléter, on vient plus. Des fois, on vient moins. Après, on s'arrange entre nous. L'équipe, ça fonctionne bien. C'est une équipe qui fonctionne bien.
Les personnes qui viennent ici, qu'est-ce qu'elles viennent chercher ? Une écoute ? Est-ce qu'elles viennent chercher autre chose aussi ?
Je pense qu'elles viennent chercher le fait qu'on les reconnaisse, qu'elles existent. C'est souvent des personnes qui sont seules quand même, donc qui ressentent ce besoin de parler, de partager, d'exposer leurs problèmes. Et puis venir chez nous, c'est une reconnaissance, c'est partager un moment avec quelqu'un, dialoguer. On donne pas de conseils, mais on aiguille quand même vers quelques pistes. Le fait de leur faire se poser quelques questions, je pense que c'est ça qui les attire, puisqu'on a quand même pas mal de gens qui reviennent. On fonctionne beaucoup avec ce qu'on appelle les habitués, des gens qui viennent régulièrement ou qui appellent régulièrement.
Bernadette, la meilleure écoute, c'est d'écouter sans intervenir, sans parler, laisser la personne se libérer de ce qu'elle a à dire. Bien sûr que ça s'apprend au fur et à mesure de nos écoutes, ça s'apprend grâce aux formations, et puis on fait aussi de l'écoute dans sa vie professionnelle, personnelle, amicale, donc ça, c'est de tous les instants.
Écoutez, ça veut dire que vous vous mettez en retrait ?
Oui, absolument. Il faut, pour l'espace d'un moment, s'oublier un petit peu, oui. Oui. Être complètement en empathie avec la personne que l'on est en train d'écouter.
Un certain nombre de retraités s'engagent dans l'association, mais pas seulement. Sylvie.
J'ai toujours fait du bénévolat, dans des activités différentes. Là, il se trouve aussi que je fais une formation en développement personnel et ça m'intéressait d'avoir une approche de l'écoute. Ici, on pratique l'écoute centrée sur la personne. Donc, ça entrait dans cette volonté de faire du bénévolat et en même temps, j'y trouvais une pratique de quelque chose qui m'intéressait.
Mais en fait, c'est pas un bénévolat banal ici. On vient quand même, comme je disais tout à l'heure à votre collègue, on vient pas uniquement pour se faire plaisir.
On vient pour se faire plaisir parce qu'on est avec une équipe de gens chaleureux et que malgré tout, même de tous les entretiens, on en retire toujours quelque chose. Donc, c'est pas une contrainte. Mais c'est vrai que dans le bénévolat, il y a le don, mais il y a aussi le fait qu'on retire quelque chose de ce qu'on fait. À partir du moment où c'est une contrainte, ça ne fonctionne plus.
Pour être écouté, pas besoin de prendre rendez-vous. Il suffit de pousser la porte. Ceux qui viennent régulièrement, et il y en a, savent que chaque après-midi, 2 personnes, véritablement disponibles et respectant leur anonymat, les écouteront avec bienveillance et attention. Par souci, justement, de respecter cet anonymat, nous n'interrogerons pas ceux qui, ce jour-là, à la porte ouverte, sont venus chercher quelqu'un à qui parler. Car chacun a son histoire. Difficultés professionnelles, soucis de santé, familiaux, d'ordre intime, désarroi, envie d'en finir. Ce jour-là, ce sont les écoutants qui, au travers de leurs expériences propres et dans le plus profond respect, nous parlerons de ces hommes, de ces femmes, de ces adultes, très jeunes parfois, ou de ces personnes âgées qui pourront, pour une solitude, échanger quelques mots, se libérer, ne serait-ce qu'un moment, entrevoir peut-être une solution, un espoir, ose franchir le seuil de la porte ouverte. Marie-Odile Lavigne.
Cette porte-là, je pense que ce n'est pas évident de la pousser parce que ça montre que je veux faire un pas pour essayer d'avancer. D'avancer en ouvrant cette porte et en avançant, en essayant de voir comment je peux essayer de m'en sortir un peu du problème que j'ai actuellement ou des problèmes que j'ai actuellement. Est-ce que je pense que c'est une décision que la personne qui rentre prend en disant « je veux me prendre un peu plus en main, je veux essayer d'avancer ». Donc, et cette décision, je pense que c'est un grand pas. Ça leur demande un effort important et que c'est un grand pas qu'ils font. Ça semble simple de pousser une porte, mais je pense que c'est un acte qui doit être difficile. On essaie que la personne qui est en notre présence, avec nous, soit en communication avec nous et puisse dire ce qu'elle a besoin de dire, ce qu'elle a envie de dire, et éventuellement l'aider à arriver à cela, à ce qu'elle puisse le dire. Parce que quelquefois, c'est dur de démarrer un échange avec cette personne pour qu'elle puisse entrer en communication. Et c'est à ce moment-là qu'on essaie, quand c'est dur pour elle, de l'aider à démarrer. Et après, petit à petit, ça vient et elle peut arriver à dire ce qu'elle a besoin de dire et ce pourquoi elle a ouvert la porte, bousser la porte.
C'est l'histoire d'une confiance mutuelle.
Voilà, tout à fait. Être en empathie, mais sans avoir à se dire, il faut que je l'aide. Non, ça, il faut que je l'aide, oui, mais il faut que je l'aide, mais c'est elle qui doit céder elle-même, essentiellement. Mais ça, nous, on peut l'aider à céder.
Mais de temps en temps, est-ce que ça ne vous démange pas de donner un conseil, de dire, à votre place, je ferai ci, je ferai ça?
C'est très tentant, parce que quelquefois, on se dit, il ne faudrait pas grand-chose pour changer. Mais je crois que ça peut arriver au cours d'un entretien qu'on amène la personne à dire « Écoutez, peut-être, je ne sais pas, moi c'est moi, vous c'est vous, on est totalement différents, mais peut-être, est-ce que vous ne pourriez pas voir de ce côté-là s'il n'y a pas moyen d'échanger, de faire ceci, de faire cela ?» Mais ça doit être très, très ponctuel.
Parce qu'il faut bien préciser que cette écoute est totalement anonyme.
Ah oui, l'écoute est totalement anonyme. Nous ne savons le nom de personne. Nous ne savons pas son âge. Bon, on peut le voir puisqu'on l'a en face de nous éventuellement. Mais on ne sait pas d'où elle vient. Quelquefois, elle peut nous le dire. Qu'elle vient de Toulouse ou qu'elle vient de plus loin. Ça, c'est elle qui... Elle nous dit ce qu'elle veut nous dire. Mais rares sont les personnes qui nous disent quoi, leur nom, leur prénom, leur âge. Nous ne le savons pas. Nous ne savons que vraiment très fortuitement, quelquefois, avec des personnes qui viennent depuis plusieurs années, qui arrivent à un moment ou à un autre à nous dire qu'elle a 50 ans ou 30 ans ou 35 ans, mais c'est très, très, très rare. Donc c'est un anonymat complet.
Mais dans l'anonymat, néanmoins, vous arrivez à nouer des relations fortes, des relations qui peuvent être davantage suivies?
C'est-à-dire que nous avons un certain nombre de personnes qui viennent à la porte ouverte et qui viennent depuis longtemps. Certaines personnes qui viennent depuis longtemps, certaines personnes qu'on ne voit plus et que l'on revoit quelques années ou quelques mois après. Donc, et d'autres personnes qui reviennent par période très souvent, c'est-à-dire presque tous les jours. Et là, c'est forcé qu'il se crée un certain lien parce qu'on fait des écoutes en principe deux fois dans la semaine, 2h15. Donc, il est possible que cette personne qui vient pour être écoutée, on la voit une fois par mois ou deux fois dans le mois parce qu'on a fait des écoutes où elle est venue aux heures où nous étions en permanence. Donc c'est vrai qu'après, il y a une chaleur humaine qui est obligée de passer. Mais pour nous, ça reste des personnes qui sont... Autant on est en empathie avec quelqu'un tel étant en notre présence, mais après, je pense que ce sont des personnes qui existent, qui vivent, qui ont leur vie et que nous, il est important de savoir que nous avons aussi une vie à côté.
Si savoir écouter est quelque chose de plus ou moins inné, tous les bénévoles néanmoins reçoivent une formation initiale à l'écoute, animée par des professionnels en psychologie, et participent au titre de la formation continue à des groupes de partage et à des journées d'études. Jean-François Champignol.
On a calqué notre écoute sur la méthode du psychologue Carl Rogers, qui met en exergue effectivement donc l'empathie. Alors, en résumé, nous ne pratiquons pas une écoute directive. On ne dit pas « il faudrait faire ci, il ne faudrait pas faire ça ». Donc, on est là pour écouter. Et des fois, bon, on rebondit sur certains dialogues, quoi. Ils nous tendent une perche, entre guillemets, et je pense qu'il faut rebondir. Et on essaye également d'amener un peu de chaleur dans cette écoute. Donc, de ne pas rester stoïque et ne pas uniquement hocher la tête ou quoi.
Alors, vous me parlez de la façon d'écouter, des postures de l'écoutant. Parce que lorsque les personnes rentrent ici à la porte ouverte, vous les recevez dans un bureau et vous êtes de part et d'autre d'une table. Comment vous vous installez ?
Ben, écoutez, moi, j'aime pas me mettre en face derrière un bureau. Je trouve que ça fait un petit peu trop solennel. Je me mets souvent en diagonale. Voilà. Et pour revenir à votre question au niveau des postures, Carl Rogers en préconise 3. Il préconise donc l'empathie, être touché sans souffrir, ça c'est très important. L'acceptation inconditionnelle, donc accepter l'autre tel qu'il est, avec ses doutes et ses failles. Et l'authenticité, l'écoutant doit vivre une relation authentique, être capable de reconnaître et respecter ses propres sentiments. Donc, je parlais précédemment de cette petite barrière invisible, ça rejoint parfaitement cela, quoi.
Être totalement présent, en empathie avec les écoutés, sans pour autant se charger de tout le poids des paroles entendues, c'est le rôle de la formation, et au-delà de la cohésion et du soutien de toute une équipe.
Oui, c'est quelquefois dur, c'est sûr, surtout au départ, mais on finit par s'y faire, par se blinder. Et puis, on en parle beaucoup, beaucoup entre nous, de toute façon, de façon à extérioriser ça et de ne pas se culpabiliser parce que les choses n'avancent peut-être pas. C'est ce qui nous semble.
Donc le fait que vous êtes là, que vous soyez resté, que vous êtes là depuis 8 ans, la dimension d'équipe, d'être épaulé, c'est important, ça vous a, c'est ce qui vous a poussé peut-être en partie aussi à rester ici.
Oui, oui, surtout parce que nous sommes une équipe très très soudée, même qu'il y en ait deux nouvelles, mais de toute façon on forme voilà qu'un groupe très serré et ça nous aide énormément, c'est sûr, parce que porter ça tout seul ou toute seule, ça peut être quelques jours un peu lourd. Voilà.
Et vous ensuite, vous vous sentez responsable de ces personnes une fois qu'elles ont franchi la porte ?
Responsable, c'est pas vraiment le mot, mais bon, c'est vrai que quand on ferme la porte, bon, y a des choses qui continuent dans notre tête, c'est normal. Il y a des liens quand même qui se créent, bon, des choses qui nous touchent, c'est normal.
Il y a une chose que j'aimerais vous dire, c'est que l'expérience d'être à la porte ouverte est une expérience très riche. Très riche pour beaucoup d'éléments. Elle nous permet d'abord de rencontrer des gens qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer, qui ont des problèmes que l'on ne soupçonne pas, que l'on ignore, que l'on veut ignorer peut-être. Et cette richesse qu'ils nous apportent en venant nous rend plus humbles par rapport à leur situation. Ils nous disent, au fond, toi, tu trouves ça important, mais est-ce que c'est important par rapport à ce que vit cette personne ? Peut-être tu ferais bien de repenser un peu ta situation. En plus, bon, je crois que c'est une richesse donc, par rapport à la personne qui vient pour être écoutée, une richesse par rapport à l'apport que fait l'ensemble des écoutants. Parce qu'on échange, on parle, on est formé, et ça, cette richesse, elle est dans une simplicité, une honnêteté et dans une vérité qui est très simple et très humble. C'est comme ça. Et l'important, c'est que on soit bien quand on repart de la porte ouverte. Donc, je crois que ça, c'est un gros atout. Et de faire du bénévolat en y trouvant son compte pour soi, c'est important. Et en y trouvant également une satisfaction de pouvoir aider l'autre. Je crois que ce doublage-là est très important. Et je trouve qu'à la porte ouverte, personnellement, j'ai su l'y trouver.
Parler, échanger quelques mots, ça soulage, ça apaise, ça fait du bien, car...
Où parle-t-on maintenant ? On ne parle plus, on se parle très peu entre nous, dans le métro, dans les bus. Oui, on va échanger un petit clin d'œil, un petit sourire, mais à quel moment la personne va pouvoir poser ce qu'elle a, ce qu'elle vit ? Ben, c'est ici.
C'est quelque chose de très rare ce que vous faites alors ?
Bon, on est content de le faire. On a la foi, je dirais. Je ne sais pas si la foi existe, mais pour moi, je pense qu'il y a une question de volonté, en tous les cas, de faire et d'être. Et après, Inch'Allah, ça se fera.
Chaque année, près de 12 000 personnes franchissent le seuil de la porte ouverte qui se trouve, je vous le rappelle, au 34 rue des Couteliers à Toulouse. Voir quelqu'un qui vous écoute, c'est une des forces de la porte ouverte. Mais l'écoute peut se faire également par téléphone au 05 61 14 22 78, car comme nous l'ont dit les écoutants tout au long de ce reportage, s'écouter, c'est avant tout se rencontrer.